Bonjour François.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour parler de CSST. Je suis tellement heureux.
Mais justement, parlons CSST parce que, évidemment, quand on pense santé, sécurité au travail, mm-hmm. c'est à eux qu'on pense. On les juge, on les critique pour bien des raisons que je n'ai pas nécessairement envie d'aborder aujourd'hui. Mais ce qui est important de souligner, je veux le faire d'entrée de jeu, c'est que si... on a une limitation fonctionnelle suite à un accident qu'on a vécu sur le milieu de notre travail, la CSST, si c'est dans le cas qu'une prothèse, une prothèse pourrait nous aider à réintégrer le milieu du travail, la CSST peut nous aider à payer cette prothèse-là.
Oui, en fait, les deux grands régimes qui remplacent votre indemnisation en cas de soit d'accident de la route, quand on parle de la SAQ, ou d'accident de travail, quand on parle de la CSST. Ces deux régimes-là prévoient, dans les mesures de réadaptation, la fourniture de prothèses et le paiement des prothèses. Alors, effectivement, vous avez droit, et ça peut aller assez loin, ça peut être assez dispendieux, on le voit, et ça peut être des prothèses de pointe. Si une prothèse vous aide à réintégrer le marché de l'emploi, c'est clair que pour la CSST, c'est beaucoup plus payant de vous aider à recommencer à travailler que de vous payer un salaire à rien faire chez vous.
Mm-hmm.
Donc, ils vont, je dirais, pas qu'ils vont être heureux de vous les payer, bien sûr, mais ils vont vous les fournir et c'est déjà beaucoup plus que le régime public. On pourrait en parler très, très longtemps, mais la santé à deux vitesses au Québec, ça existe notamment à cause de la CSST et de la SAQ.
Si la CSST peut nous aider à payer cette prothèse qui nous servira à réintégrer le travail, est-ce qu'elle peut également participer à payer des séances avec un psychologue, à payer des médicaments, un fauteuil roulant, par exemple?
Il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. On va se placer chronologiquement, si vous le voulez bien. Il survient un accident. La première chose qu'on va faire, que la CSST va faire, c'est vous consolider, c'est-à-dire vous ramener dans un état soit de guérison complète, soit là où la médecine peut vous amener. Okay? Dans certains cas, effectivement, vous êtes complètement guéri, vous recommencez à travailler, il ne s'est rien passé, tout va bien. Pendant cette période-là, la CSST, effectivement, va vous fournir tout ce qui est nécessaire à votre guérison ou à l'amélioration de votre condition. Une fois que vous êtes consolidé, là, on constate l'étendue des dommages permanents, malheureusement. Là, on parle de réadaptation. Mm-hmm. Il y a trois sortes de réadaptation. Il y a la réadaptation physique, bien sûr, et là, ça inclut les prothèses, la fourniture, l'adaptation du poste de travail, notamment. Si mm-hmm. vous réintégrez votre emploi et que vous êtes capable de réintégrer votre emploi, si on vous fournit, je ne sais pas, moi, par exemple, une barre tactile pour lire du braille ou des écouteurs spéciaux ou un siège particulier, ou si on adapte votre bureau pour que vous puissiez vous y rendre en fauteuil roulant, la CSST va payer ça. Ça fait partie de la réadaptation qui paye. Il y a la réadaptation sociale également. La CSST, si vous êtes plus capable de tondre votre gazon, va vous payer les services d'un paysager qui va s'occuper de tondre votre gazon et qui, je crois que c'est tous les deux ans, va repeindre la maison, par exemple, ou faire un grand ménage. Il y a des choses qui sont incluses, qui permettent donc de rester dans le milieu où vous vivez. Ça va inclure, dans certains cas, oui, des consultations psychologiques parce que vous êtes en stress post-traumatique, que vous êtes déprimé ou, et c'est malheureux, mais il y a des incidents qui, parfois, provoquent la naissance de maladies mentales.
Bien sûr, notamment mm-hmm. dans le milieu du travail. On fait quoi, François, pour avoir recours à tous ces services-là? Est-ce que tous les travailleurs y ont droit?
Au moment où je vous parle, à la fin de 2013, parce que les chiffres de 2014 ne sont pas sortis, il y avait plus ou moins 3 550 000 salariés au Québec qui pouvaient bénéficier de la couverture d'assurance de leur employeur.
Mm-hmm.
Je le présente comme ça parce que les gens s'imaginent que la CSST, c'est un droit des salariés. L'assuré, c'est l'employeur. Le salarié, lui, c'est la personne qui bénéficie de la couverture. La nuance est importante, puis éventuellement, si on a le temps d'y revenir, j'aimerais ça.
Le temps, c'est ça qui va nous manquer
oui,
aujourd'hui.
Ça va nous manquer. On pourrait initier une relation suivie là-dessus, vous et moi. Donc, quand il survient un accident, il y a plusieurs scénarios possibles. Ça peut être un bobo, vous continuez à travailler.
Eh bien,
vous le dites. Vous le dites simplement à votre employeur.
Le moindre bobo, on doit le mentionner.
Oui, toujours, toujours. Je vous donne un cas de figure complètement idiot, là, mais si vous avez une hernie, vous faites une hernie en travaillant, ça fait juste un petit pop dans le ventre. C'est presque rien. Et pendant 3 mois, 6 mois, 2 ans, ça peut ne rien faire. Mais vous vous êtes fait une hernie. un jour, il y a malheureusement un petit bout de votre physionomie qui passe par ce petit trou-là, et là, ça devient très, très, très douloureux. Okay. Il est important qu'on ait documenté à l'origine le fait que c'est arrivé au travail. Parce que ce qui va fonder la compétence de la CSST et vos droits en vertu de cette loi-là, c'est que votre lésion professionnelle soit survenue par le fait ou à l'occasion de votre travail.
Oui.
Alors, c'est très, très important, dès que vous vous blessez, de le signaler. Et je fais un aparté ici parce que souvent, on décourage les salariés de faire ça. Vous savez, on voit souvent ça dans des usines, des panneaux du genre... 222 jours sans accident.
Oui, puis par souhait de performance aussi, parce que l'employeur a certaines exigences.
Oui, ça peut vouloir dire, regardez comment on encourage la sécurité ici, puis c'est important, ça peut être la culture qu'on veut installer, mais ça peut aussi vouloir décourager le salarié d'être celui qui va remettre le compteur à zéro. Et ça, il ne faut pas que ça arrive, c'est vraiment important. Et c'est important pour plusieurs raisons aussi. L'autre motif qu'on voyait aussi souvent, c'est des employeurs qui disaient « Ah, laisse faire ça, la CSST, c'est trop compliqué. On a une assurance à shop, une assurance privée, on paye pas. Sartoisant, c'est plus simple, tu as juste à demander. » Sauf qu'à ce moment-là, votre accident de travail n'est plus un accident de travail. Si ça se complique quand votre assurance est finie ou quand vous avez changé d'emploi, vous ne serez pas couvert par la CSST pour cet accident-là.
Mais concrètement, alors, les actions, on avertit okay. qui, l'employeur?
Vous avertissez votre supérieur immédiat. Ça, c'est la première chose à faire. Okay? Si vous devez quitter l'entreprise pour aller vous faire soigner, effectivement, ben là, vous allez à l'hôpital, mais dès que possible, vous avertissez l'employeur. Vous quittez l'entreprise, là, il y a plusieurs scénarios possibles. Dans les 14 jours suivants, si vous ne pouvez pas travailler, donc vous manquez 14 jours, et plus que 14 jours, là, il faut faire une réclamation formelle à la CSST. Votre employeur va continuer à vous verser votre 90 % de votre revenu brut, de votre revenu net, pardon. Et faire attention ici, parce que ça n'inclut pas l'assurance chômage, ça n'inclut pas les rentes. Bref, vous perdez des droits, là, mais vous touchez 90 % de votre net quand même pour ces deux semaines-là, que l'employeur se fait rembourser par la CSST. Mais après ça, c'est la CSST qui va remplacer votre revenu.
Est-ce que la CSST peut refuser une réclamation?
Elle le peut. Elle le fait dans 20 % des cas.
Ah oui, c'est quand même beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Soit qu'elle estime que ce n'est pas survenu au travail, qu'elle ne croit pas le salarié, soit que, par exemple, on va dire ce qui t'est arrivé, ce n'est pas un accident de travail, ou il y a différentes possibilités. Il y a une clause, par exemple, dans un article dans la loi qui prévoit que le salarié qui se blesse volontairement en désobéissant à son employeur, il n'est pas couvert.
Donc, j'imagine que dans ces cas-là, il faut s'assurer d'avoir des preuves, d'avoir un collègue qui a pu observer ce qui s'est passé.
Oui, et la loi impose à votre employeur de vous assister dans la préparation de votre réclamation. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un au personnel, il va sortir le formulaire. Faites attention, ils ont tendance à remplir les formulaires à votre place et à écrire l'histoire à votre place, puis des fois, de la façon dont elle est écrite, l'histoire, vous vous tirez une balle dans le pied.
Oui.
Ça peut être important. On doit vous aider à faire cette réclamation-là, qui est une réclame, un formulaire de quelques pages. C'est pas terriblement long à compléter, là, mais ça peut être encombrant. Cette réclamation-là, vous la complétez, donc, si vous pensez que vous allez avoir quelque chose à réclamer. Comme je vous disais, la principale indemnité pendant votre période de guérison, c'est l'indemnité de 90 % de votre revenu net. Bon, c'est censé être non imposable, mais dans les faits, vous perdez votre crédit d'impôt. Mais il y a toutes les indemnités accessoires qui comptent aussi. C'est-à-dire toutes les dépenses que vous encourez pour aller vous faire soigner, c'est couvert.
Le taxi
ou le stationnement de l'hôpital. Ouais. À 12 $ par jour, ça monte vite quand on a trois rendez-vous. Le physio, d'ailleurs, la physiothérapie au Québec, c'est un don de la CSST puis de la SAQ. Là, c'est deux organismes-là qui fournissent l'essentiel de la clientèle.
François, certains travailleurs sont plus exposés que d'autres à des risques dans leur milieu de travail. Mm-hmm. Est-ce que l'on peut refuser de faire un travail que l'on pense risqué pour notre santé?
Oui, mais il y a des balises.
OK.
OK. Tout le monde a le droit de... Puis pas simplement pour sa santé, mais pour la santé d'autrui ici. Tout le monde a le droit de refuser de faire un travail qui est dangereux pour soi ou pour autrui, sauf si le fait de refuser de faire ce travail-là met quelqu'un en danger.
Ouais.
Par exemple, on peut imaginer qu'un chirurgien, il découvre que la personne qui est en train d'opérer a le sida, lui, il veut pas l'attraper, alors il décide qu'il arrête là. Ben non, c'est pas acceptable, là. tu as l'obligation de terminer ou à tout le moins de le sécuriser avant de le quitter. Mm-hmm. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de refuser de travailler, donc, si ça survient, un refus, sauf si ça fait partie de ton travail. C'est okay. Un pompier qui dirait « je ne vois pas là, il y a le feu ».
Ah oui, 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 oui.
On serait dans une situation un peu tordue. Alors, s'il s'agit de si c'est pas son travail ordinaire, son refus ne met pas quelqu'un en danger, oui, vous avez le droit de refuser. Mm-hmm. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que le patron fait venir une tierce personne qui généralement est un délégué syndical à la santé-sécurité ou un délégué syndical ordinaire. On débat, on décide est-ce que c'est dangereux ou pas. Et pendant ce temps-là, il ne peut pas nommer quelqu'un d'autre, le patron. Là, le boulot est arrêté.
Mm-hmm, mm-hmm.
OK. Mais là, il y a différentes variantes. Il y a des raisons subjectives de ne pas vouloir faire un travail dangereux. Par exemple, moi, j'ai le vertige. J'y peux rien, j'ai le vertige.
Mais vous n'avez pas le vertige ici, là?
Ça dépend, ça dépend. Mais monter dans un escabeau, ça me terrorise. C'est-à-dire, c'est dangereux pour moi. Je suis en danger dans une échelle. Alors, mais le travailleur à côté de moi, il ne sera pas. Alors, si je veux dire à l'employeur, regarde, c'est pas mes tâches habituelles, je ne m'en pose pas, mais alors, si l'employeur ne comprend pas ça, là, il y a un problème.
Mais dans le cas où ce n'est pas nécessairement un risque pour notre santé, notre vie, mais plutôt des précautions, c'est-à-dire un fauteuil adéquat, l'écran, tout l'équipement de bureau, est-ce qu'on peut faire des demandes à notre employeur? C'est dans nos droits de le faire?
Vous avez droit... Ce que la loi sur la santé et sécurité du travail dit, c'est que vous avez droit à un environnement de travail sécuritaire. La loi ne va pas jusqu'à dire vous avez droit aux mesures ergonomiques idéales. Parce que évidemment, chacun a ses préférences. Donc, s'il n'y a pas de danger à proprement parler, vous ne pouvez pas faire une représentation en ce sens-là. Mm-hmm. Vous pouvez toujours le faire pour des raisons logiques du genre, regarde, si je ne fais pas ça, on va avoir des problèmes plus tard et c'est plus payant pour l'employeur. C'est ce que je voulais aborder tout à l'heure en disant, parce que ça, les gens le savent moins, c'est que toutes les dépenses de la CSST en bout de piste sont couvertes par les employeurs.
Mm-hmm.
Okay? Donc, si vous démontrez à votre employeur qu'il y a une économie réelle à éviter telle ou telle chose, c'est votre employeur en bout de piste qui met des sous dans sa poche.
Oui, et il devrait trouver ça intéressant.
Alors, présenté comme ça, voyez-vous, il y a un avantage à le faire.
Il y a aussi des employés qui sont plus à risque. Je pense notamment aux femmes enceintes. J'avais envie d'aborder ça. Ça m'intéresse personnellement.
Non.
Est-ce qu'il y a des
On ne dirait pas.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, à quoi il faut s'attarder, autant en tant qu'employé qu'employeur?
OK. Pour la femme enceinte, le mécanisme de retrait préventif est relativement simple. On va consulter son médecin dès qu'on est enceinte, évidemment. Remarquez, ça ne m'est pas arrivé récemment. Donc, vous allez consulter votre médecin et si votre médecin, tous les médecins le font en pratique, ils vont vous poser des questions sur ce que vous faites parce qu'on va le vérifier. Mais dans tous les cas de figure, il faut parler de son occupation à son médecin. Okay, pour lui dire ce qu'on fait, histoire de vérifier s'il y a un danger pour la femme enceinte elle-même ou pour le fœtus.
Mm-hmm.
Le médecin, s'il estime qu'il y a un danger et que votre occupation professionnelle est incompatible, puis il y a différentes raisons pour ça, là. Par exemple, si vous travaillez en milieu hospitalier, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes d'infection, il y a des... Le médecin va vous dire « Non, tu ne peux plus travailler là. » Mais si l'hôpital peut t'offrir tel ou tel type de travail à côté... Avec la certitude, donc, que tu ne seras pas en danger, l'hôpital peut t'offrir une autre tâche, puis tu continues à être payé selon ce que tu gagnais auparavant pour faire cette autre tâche-là. Mm-hmm. Là, ça passe.
Mm-hmm.
Si cette autre tâche-là n'existe pas, bien, tu restes chez vous et tu es indemnisé à ce moment-là par la CSST.
Mm-hmm. Vous parliez de violence, ça m'a fait penser à tout ce qui est lié. Évidemment, il y a plein de volets au milieu du travail. Malheureusement, harcèlement, on peut penser à harcèlement psychologique, harcèlement sexuel également, qui arrive parfois, malheureusement, dans certains milieux de travail. À ce moment-là, quels sont les recours pour les employés?
Il y en a plusieurs. À froid, comme ça, je dirais, il y a le recours en vertu de la loi sur les normes du travail qui existe. Vous avez droit à un milieu de travail libre de harcèlement. C'est ce que la loi dit. Ce sont, dans tous les cas de figure, des dossiers difficiles. Parce que...
Et de longue haleine, souvent.
Ben
aussi.
Oui, le niveau de preuve n'est pas facile. Et quand vous êtes une personne harcelée, une des caractéristiques de votre victimisation, c'est que ça vous bouffe votre énergie. Alors, vous n'avez pas envie de vous battre. Souvent, c'est des dossiers où il faut faire une preuve complexe. En principe, voyez-vous, si on le traite comme une maladie, parce qu'on peut le traiter comme une dépression professionnelle, si on le traite comme une maladie, on va faire exactement comme si c'était une maladie professionnelle, et on va distinguer éventuellement accident du travail et maladie professionnelle, et à ce moment-là, on part avec votre diagnostic médical, et ça va être traité, donc, comme si vous étiez malade à cause du travail. Mais la difficulté dans un cas de dépression, c'est de prouver que vous êtes déprimé à cause du travail. Et ça, c'est pas évident.
Vous vouliez faire la nuance entre accident de travail, maladie professionnelle?
Oui, parce que pour les gens, c'est pas toujours clair. C'est évident que si vous avez une chute puis que vous ouvrez une fracture ouverte à la cuisse, bon, c'est un accident du travail. Mais les maladies professionnelles, ça se développe longtemps. Ça peut se développer après une chute. Ça peut se développer... par exemple, vous pouvez perdre l'audition des années après avoir cessé de travailler. Ça va rester une maladie professionnelle. Vous avez le droit d'être indemnisé, vous avez le droit aux prothèses, vous avez le droit à plein de choses. Ça existe, mais c'est plus compliqué parce que la relation de cause à effet est difficile à établir. Je vous donne un exemple bête et banal. On estime, la CSST elle-même qui le dit dans son rapport de recherche, qu'à peine 2 à 3 % des cancers professionnels sont reconnus actuellement. Parce que vous pouvez difficilement prouver que vous avez été exposé à telle matière cancérigène 25, 30 ou 40 ans auparavant. La difficulté de preuve fait en sorte que c'est presque impossible, à l'exception des trucs causés par l'amiante.
En terminant, est-ce qu'il y a suffisamment de prévention dans les milieux de travail au Québec?
Il n'y en a jamais trop de la prévention. De l'autre côté, le propre d'un accident, quand on le regarde après coup, c'est de dire « j'aurais pu l'éviter ». Oui, on peut tous les éviter, les accidents. Puis j'ai le sentiment qu'il va y en avoir un autre qui va arriver ensuite et c'est souvent bête et banal. Est-ce qu'on peut donc éviter tous les accidents? La réponse, c'est non. Et est-ce qu'on le veut? Je ne crois pas qu'on le veuille non plus parce que ça serait lourd.
Oui. François Brodeur, vous êtes juriste. Merci beaucoup. J'espère ne pas vous avoir donné trop le vertige aujourd'hui.
Ah, toujours.
Au plaisir. Il y aura encore plein de volets, hein, on le sait, à couvrir. Ben, vous reviendrez. On n'est pas sorteux.